Merci d'être avec nous, Antoine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais, pour le monde qui ne connaisse pas nécessairement le contexte actuel, nous présenter un petit peu cette nouvelle politique économique?
Oui, bien, pour commencer, Cuba et pour l'Amérique du Sud, c'est vraiment encore aujourd'hui un modèle, et peut-être aussi pour le monde entier, parce que c'est un des pays qui persiste aujourd'hui à avoir des relations non-capitalistes dans son économie nationale. Et puis, et c'est aussi important parce que je crois que plusieurs personnes de Montréal connaissent Cuba, sont déjà allées à Cuba, ont voyagé pour la facilité que le tourisme est devenu là pour les Québécois à Cuba. Et tout le monde a un peu son idée sur Cuba, tout le monde a déjà vu un petit peu la cité cubaine. Et puis et tout le monde s'attend à ce que tôt ou tard, ce régime-là tombe. Et on annonce sa mort depuis tellement longtemps maintenant que quand Raúl Castro annonce au début du mois de novembre un projet de réforme qui s'appelle los nuevos lineamientos, hein, les nouvelles lignes d'action du gouvernement cubain, évidemment, ça cause beaucoup d'interrogations. Et les grandes lignes d'action qui ont été proposées par le gouvernement, c'est la plus spectaculaire, c'est ils vont congédier le congédiement de 500 000 personnes qui travaillent pour l'État. Évidemment, quand on parle de travailleurs de l'État, ça regroupe à peu près tous les secteurs de l'économie à Cuba, hein, pas juste les services sociaux dont on est habitué d'avoir, mais également beaucoup de personnes dans les entreprises de la production. Mais également, on veut introduire une économie beaucoup plus basée sur les salaires et moins sur les gratuités, et baisser la sécurité sociale, notamment pour faire en sorte qu'il y ait de moins de personnes qui vivent supposément dans la sécurité sociale ou d'emplois qui sont, disons, faux ou qui sont payés par l'État pour ne pas faire grand-chose. On veut également soutenir l'agriculture familiale et surtout l'agriculture à son propre compte. Permettre aux gens de pouvoir faire des petites entreprises, des petits commerces, etc. Et évidemment relancer le tourisme qui est la bouée de sauvetage en ce moment pour Cuba. Donc beaucoup de réformes qui laissent perplexe autant d'un côté sous plusieurs angles, disons.
Puis est-ce qu'on voit dans cette annonce finalement la réalisation là, de la catastrophe annoncée, là, de la fin justement d'un modèle économique, ou est-ce que certains tentent d'y voir une suite de transition, là, comme assouplir certaines règles vu qu'il y a eu des changements à l'économie qui permettent certains assouplissements, ou est-ce que c'est vraiment un abandon de certaines politiques?
Pour le régime cubain qui est confronté vraiment à l'inefficacité et la faible productivité de son économie, c'est un petit peu la dernière chance pour la classe des bureaucrates, vieux bureaucrates encrastés à Cuba, pour essayer de remettre le pays sur de meilleures possibilités économiques. Mais comme on voit depuis 2006, le changement qui était fait quand Fidel Castro est parti pour des causes de maladie, était remplacé par son frère Raúl Castro, on voit que c'est encore vraiment la même vieille garde qui se maintient au pouvoir et qui veut garder solidement les rênes sur l'économie. Et pour la majorité des Cubains, si vous êtes allé à Cuba, vous savez que déjà, il y a beaucoup de gens qui font leurs petits négoces, leurs petites affaires, mais beaucoup cachés. Est-ce qu'ils vont souffler ces personnes-là? Je pense que Il faudra voir, parce que souvent le gouvernement cubain dit qu'il permet une certaine autonomie aux gens de pouvoir organiser leur vie, mais après ça, soit il leur demande des impôts qui sont insensés à payer pour des petits commerces familiaux, ou il les enterre de tellement d'exigences bureaucratiques que finalement il finit par décourager et faire retourner les gens sur le marché noir. Donc, est-ce vraiment une ouverture? Ça reste à voir et il va falloir voir comment c'est appliqué. Mais on annonce déjà aussi une forte propagande, une forte mobilisation de la population vers l'organisation d'un congrès du Parti communiste cubain en avril prochain, qui pourrait faire en sorte de faire une consultation, mais évidemment, c'est ça qui serait mieux, c'est que réellement il y ait une consultation de personnes les mieux placées pour que les gens se sentent prêts de leur vie, de leur travail, de leurs conditions de vie. C'est ce qu'ils ne se sentent pas du tout à Cuba. Ils sentent que tout est gouverné par une classe, un parti qui ne leur demande pas leur avis. Et pour ce qui est aussi, et ce qui fait en sorte que le peuple cubain est finalement très souvent désorganisé, fragmenté et n'est pas organisé de manière autonome, qui pourrait faire en sorte de défendre certains des acquis qui sont très populaires à Cuba. Donc, on parle évidemment de l'éducation, du système d'éducation de qualité, de la santé gratuite et un des meilleurs systèmes de santé en Amérique du Sud, même si Cuba est, au niveau économique, un des pays les plus pauvres de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il a un système de santé le meilleur qui garantit, le seul qui garantit à tout le monde, tous les citoyens et citoyennes, un accès à des soins égaux. Mais est-ce que cet État-là va pouvoir se désengraisser et augmenter sa productivité? La seule manière, justement, ce serait de permettre des contre-leviers, permettre d'organisation des travailleurs et des travailleuses pour qu'ils puissent organiser et gérer eux-mêmes les services ou la production dans les unités d'agriculture ou de petites productions manufacturières, qui les permettent d'avoir un contre-levier avec des organisations propres, syndicales, qui pourraient faire pression aux gestionnaires qui sont nommés par le parti.
Est-ce qu'on pourrait voir les traces, les commencements d'une transition vers une économie capitaliste, comme on a pu voir en URSS, avec justement l'élite du parti qui transforme les politiques économiques à son avantage, plutôt donc en promettant la démocratie ou plus de participation et le capitaliste comme moindre mal pour accepter ce plus de démocratie? Est-ce qu'on voit ces éléments-là se poindre à l'horizon? J'avais aussi entendu parler qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de publicité à Cuba faisant la promotion du modèle chinois ou de ce genre de choses-là. Est-ce que tu as vu un peu les analyses là-dessus?
Moi, je crois que le modèle chinois est un exemple à Cuba beaucoup mieux, je dirais. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la masse critique parce que, bon, la population chinoise fait en sorte que le développement de la production capitaliste, il y a un marché de travailleurs qui est beaucoup plus présent, qui fait en sorte de... Mais par rapport à Cuba, je pense que la transition s'oriente, évidemment. Raúl Castro veut s'inspire beaucoup, il l'a souvent dit, il veut animer Cuba plus sur un modèle chinois, ce qui donne beaucoup d'interrogations et de scepticisme parce que, bon, finalement, le modèle chinois, c'est la position d'une dictature pour maintenir les salaires bas, maintenir la population dans un état de pauvreté, de peu de pouvoir sur leurs conditions de travail, qui fait en sorte de pouvoir bénéficier à une classe d'entreprise transnationale qui vient produire toute la production manufacturière globalisée en Chine. À Cuba, il n'y a pas ce marché d'emploi-là, mais on peut le voir dans le tourisme, par exemple. On veut encore augmenter les investissements dans le tourisme, augmenter les investissements internationaux. Et ça, ce que ça veut dire, évidemment, c'est augmenter les entreprises, les hôtels, les entreprises de voyage, qui font en sorte de profiter d'une main-d'œuvre à bon marché. Et que, d'un côté, justement, les bureaucrates ou le Parti communiste parlent d'une société socialiste, parlent d'une société d'égalité, mais de l'autre côté, le tourisme même, il l'encourage et profite à des travailleurs qui gagnent beaucoup plus que des salaires de médecins ou donc il y a comme une pyramide inversée à Cuba, ça tout le monde le sait. C'est comme un double discours parce que le capitalisme concret qu'on insère avec l'arrivée de ces économies-là, en donnant des plages à des entreprises hôtelières, évidemment qui sont étatiques, mais il reste que c'est beaucoup de territoires à Cuba qui vont être occupés par les étrangers. Donc c'est comme une espèce de processus de dénationalisation qui est loin d'être le socialisme. Et ça a beaucoup d'impact sur les mœurs. On parle d'augmentation de la prostitution. Si vous êtes à Cuba, tout le monde sait que la prostitution est facile d'accès et qu'elle est partout, même si officiellement le régime, c'est vraiment pas dans les mœurs socialistes que promouvoit le régime. Il y a une tolérance, une corruption totale qui accepte ça.
Et donc, dans les choses à suivre dans les prochains mois, cette annonce de nouvelle politique va donc être appliquée avant la perspective d'un congrès du parti qui pourrait changer les choses. Si quelqu'un veut s'intéresser au sujet, pour toi, c'est quoi les prochaines choses à avoir l'œil?
Évidemment, à Cuba, il n'y a pas d'espace de débat. C'est ce qui manque et c'est ce qu'on aurait besoin pour que réellement les acquis de la révolution, les acquis qui ont été gagnés de hauts sacrifices, de haut travail des premières générations révolutionnaires, aujourd'hui, les nouvelles générations, ils ne font pas confiance, ils font beaucoup de blagues sur ça. Il ne croit pas, il y a un essoufflement et il y a vraiment un découragement, une démotivation totale. Et la seule manière de permettre, ce serait justement, comme tu dis, de permettre des espaces de débat que les congrès du Parti communiste ou des congrès de chaque branche d'organisation, des partis de jeunesse, des syndicats, puissent avoir vraiment d'espace de débat où les gens puissent participer. Que réellement il peut y avoir des réformes économiques, mais ça semble pas vers là que ça va à Cuba. Et on parle même de faire des mesures très impopulaires comme éliminer la libreta. La libreta, c'est le fameux cahier ou le carnet avec lequel ils vont chercher le Cubain peut aller chercher pour sa famille des denrées alimentaires à un faible prix. Évidemment, on parle de réduire les pensions des personnes âgées. Évidemment, on dit toujours qu'on va faire ça de manière à focaliser pour que les personnes réellement, qui en ont réellement besoin, puissent garder les bénéfices sociaux. Mais évidemment, c'est des mesures impopulaires qui risquent de saper les propres bases d'un appui populaire à des mesures, disons, non capitalistes et encourager les gens finalement à, bon, mais si l'État me donne plus des services subventionnés, à quoi ça me sert le socialisme? Alors, je préfère donc aller réellement vers une économie ouvertement capitaliste. Mais c'est là-dedans que je crois que par ce qu'on s'en va à Cuba, mais avec les rênes bien serrées pour que justement les classes de bureaucrates puissent garder les principaux postes, les principales opportunités économiques qui vont s'ouvrir si éventuellement il y a des réformes. Donc, c'est pas encore gagné, c'est pas encore fait. Je crois que le poids des années, le poids de la conscience révolutionnaire, le poids des acquis sociaux est beaucoup plus fort qu'il pouvait l'être en Union soviétique. C'est pour ça que le régime castriste reste à Cuba, mais évidemment, il y a beaucoup de mauvais signes et de portes qui s'ouvrent là, qui pourraient faire en sorte de faire un passage vers une économie là, de type capitaliste en maintenant le mauvais côté du régime qui est la dictature.
Mais merci beaucoup pour toutes ces informations.
Donc, ça fait plaisir.
Alors, on se retrouve d'ici quelques semaines, peut-être même en direct au Québec, pour avoir d'autres informations sur d'autres dossiers d'actualité de l'Amérique latine. Bonne fin de journée.